Seigneur, nous voulons être conscients que tu es au milieu de nous, puisque si deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors Seigneur, je voudrais te demander de nous purifier de tout péché qui pourrait entraver ta présence au milieu de nous, qui pourrait t'empêcher de nous parler. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre mon cœur pour que ta parole puisse nous toucher, qu'elle puisse faire son effet dans chacun de nos cœurs. Nous savons que tu as quelque chose à nous dire, alors Seigneur, nous voulons être prêts pour écouter, entendre ce que tu as à nous dire. Merci encore d'avoir ce privilège d'être au bénéfice de ton sang, au bénéfice de ton esprit pour ouvrir nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons aussi te remettre tous ceux qui ne sont pas là. Seigneur, te demandons aussi de leur parler. Mais Seigneur, merci encore de pouvoir nous confier en toi pour tous nos soucis. Amen. On a vu récemment, on a parlé de l'Église et l'importance que le Seigneur apporte à son Église. Il nous a dit que c'est son propre corps, ça c'est Colossiens 1, 24. Et dans Éphésiens, au chapitre 1, au verset 22, il nous a dit, Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds du Seigneur Jésus, et il a donné le Seigneur Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est tout en tous. Et le Seigneur a donné une grande responsabilité à son Église et un grand pouvoir. Alors on va prendre dans Matthieu, au chapitre 16, des versets là encore qu'on connaît bien, Matthieu 16, les versets 15 à 18. Alors c'est le Seigneur Jésus qui parle, Matthieu 16, 15, 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Sur ce que Pierre a dit par révélation, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur lui affirme que son Église sera bâtie sur cette affirmation, ce roc et rien d'autre. Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est la base de la foi sur laquelle tout chrétien s'appuie. Il ne s'agit pas d'une religion ni d'un ensemble de préceptes auxquels il faut obéir, mais uniquement sur ce fondement, Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, et tout ce que cela signifie. La foi en lui, en ce qu'il a fait, en ce qu'il est. À partir de cela, sur ce roc, le Seigneur peut bâtir son Église, elle veut. C'est lui qui le fait. Et tout ce que pourra apporter l'homme en dehors de ce fondement ternira l'image de l'Église de Christ, d'une part, et empêchera le Seigneur de la construire comme il le veut et de l'amener là où il veut. C'est comme ça. Rappelons que le but de l'Église, c'est de manifester même la vie du Seigneur Jésus. Et notre Dieu a son plan préétabli pour cet édifice qu'est l'Église et qu'il construit lui-même. Dans Éphésiens au chapitre 2 au verset 10, vous connaissez bien encore ces versets. On va prendre quelques versets dans Éphésiens, donc on peut y aller tous ensemble. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans un but qui est magnifique et glorieux. On prend un petit peu plus loin, Éphésiens 5, au verset 27. Donc le but, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et pour arriver à ce but, le Seigneur s'y emploie. Faisons-lui confiance. Mais rappelons-nous cette responsabilité qu'a l'Église. On reviendra un petit peu en arrière dans Éphésiens 3, au verset 10. Là encore, cette responsabilité qui nous incombe, nous, son Église, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire de manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? J'ai bien peur que non. La sagesse de notre Dieu ne peut se manifester au travers des déviances multiples où l'on s'appuie sur des pensées humaines, des choix humains. On entend souvent dire « il faut bien être de son temps, il faut évoluer », entend-on dire. Mais sur quel fondement ? Sur celui institué par le Seigneur Jésus, « je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant », ou selon les principes du monde. J'aime beaucoup cette comparaison que j'avais lue et que j'avais déjà citée plusieurs fois. L'Église de Christ est actuellement devenue un thermomètre qui reflète la température du monde, alors qu'elle devrait être un thermostat qui donne la température. C'est autre chose. L'Église est la maison du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est 1 Timothée 3, au verset 15. Et l'apôtre Paul, toujours dans les Éphésiens, nous rappelle sur quoi nous devons nous appuyer. On revient dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 20 et 21. Parce qu'il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Éphésiens 2, 20 et 21. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et au chapitre 4, versets 11 à 13, toujours dans les Éphésiens, le Seigneur Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, donc de l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà un plan qui est d'une exigence impossible à atteindre, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but du Seigneur. On a lu une Église glorieuse, sainte, irrépréhensible, un temple saint dans le Seigneur. C'est quelque chose d'impossible à réaliser, du moins par nous-mêmes. Mais s'il le dit, c'est qu'il veut le faire. Et il ne donnera jamais la responsabilité de conduire son Église à un seul homme, qu'elle soit l'Église dans son ensemble ou une Église locale. C'est le Seigneur, le chef. C'est lui la tête. Et nous, nous sommes ses membres. Tous ces mots, ne sont parfois que des mots tellement le but est hors des conceptions humaines. Mais c'est à la volonté de notre Dieu. J'ai personnellement du mal à imaginer ce plan parfait du Seigneur, mais j'ai réalisé que ce n'était pas grave. La seule condition que le Seigneur me demande, c'est d'être d'accord et de le vouloir. Alors, on a parlé de l'Église, et on pourrait se réfugier derrière cette idée que l'Église est une corporation dans laquelle, si un membre marche un peu à côté de la plaque, ce n'est pas très grave, on n'y verra rien. Et en allant plus loin, si c'est moi, ben ce n'est pas grave non plus. Le train est en marche, je suis bien installé au fond du train, dans le dernier wagon. Est-ce que c'est la pensée du Seigneur ? 1 Corinthiens 12, 27, vous, toi, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ça veut dire que chacun a son rôle. Le Seigneur, au sein de son Église, pour la rendre telle qu'il la veut, parfaite et pure, irrépréhensible, pour parvenir à ce désir, il y a trois conditions. On vient de voir la première, c'est que je sois d'accord. Puis il y en a deux autres que le Seigneur m'a montré. Il y en a peut-être d'autres, mais on va en parler de deux. C'est de voir, la première, devant qui nous marchons, à qui nous avons affaire. Nous avons à marcher devant celui qui est appelé dans la parole le Saint de Dieu. Dans Luc 4, 34, un démon s'adresse à Jésus en lui disant « Tu es venu pour nous perdre. » C'est un démon. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Si je marche en ayant conscience de la personne devant qui je marche, est-ce que ma conduite, mes paroles, mes actes seront les mêmes ? Lorsqu'Abraham, après la promesse d'avoir un fils de la part de son Dieu, a voulu le réaliser par lui-même en allant avec sa servante sur les conseils de son épouse Sarah, que lui a dit l'Éternel ? Genèse 17, verset 1. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Pourquoi lui a-t-il dit cela? Si ça avait été le cas, le Seigneur lui aurait dit « Marche devant ma face et sois intègre. » On connaît les conséquences dramatiques et tellement actuelles aujourd'hui de ce choix d'aller faire un enfant avec sa servante et d'avoir Ismaël. Parce qu'Abraham n'avait pas la pleine conscience de qui était réellement son Dieu. Un Dieu saint, devant lequel, si on veut marcher devant sa face, demande une intégrité parfaite. L'apôtre Pierre a pu rappeler cette exhortation dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 15 et 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » On connaît tous ces paroles, mais qu'en faisons-nous? Qu'est-ce que j'en fais? L'exigence, elle est placée très haute, et semble impossible, et humainement l'est, impossible. Lors d'un entretien il y a très peu de temps avec d'autres frères, l'un d'entre nous a fait cette remarque. Est-ce que nous avons au sein de notre Église, on en connaît peu d'autres, une réelle crainte de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu déjà? On peut se poser la question, quand on voit à quel Dieu on a affaire, ce Dieu saint, ce Dieu puissant, le seul vrai Dieu, est-ce que je marche dans la crainte? Alors, la crainte de Dieu, ça peut être la peur. La peur, oui, pour celui qui n'a pas donné son cœur, qui n'a pas cru. Là, un jour, il va avoir affaire non pas à un sauveur, mais à un juge. Et il est dit dans la parole que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible, c'est l'enfer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, l'ennemi fait tellement de choses pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est un destin terrible que d'aller en enfer. Et les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont. C'est un piège affreux. Et nous avons cette responsabilité de leur montrer le chemin de la vie. Alors pour nous, est-ce que c'est la peur? Alors selon la tradition biblique, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais plutôt d'avoir la peine de l'attrister, d'avoir la crainte, l'horreur de ce que notre Dieu est, haï, lui-même, le péché. La crainte de Dieu, c'est donc marcher devant lui en étant conscient de qui il est vraiment, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint. Dans l'Ancien Testament, le peuple avait l'interdiction de s'approcher de la montagne parce que l'Éternel y était présent. On va prendre ce passage dans Exode. Exode, chapitre 19, verset 10. Chapitre 19, verset 10. Et suivant. « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui. On le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. C'est un spectacle impressionnant. On assiste à un peuple qui est dans la crainte, parce qu'il est impur. Donc la crainte est celle de l'homme pécheur, qui ne pourra supporter la présence et la sainteté de Dieu et sa grandeur. Et il doit passer par un intermédiaire, Moïse. Ce Dieu est un Dieu saint, on ne plaisante pas avec la sainteté de Dieu. Demandez à Ananias et Saphira, ils étaient convertis? Et dans Acte 5, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu un champ, ils en ont gardé une partie, puis ils sont venus dire simplement qu'ils avaient tout vendu. Ça semble un petit mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 5, versets 3 à 5, Pierre s'adresse à Ananias et lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Ce n'est pas à Pierre qu'il a menti, au Saint-Esprit. « Et que tu aies retenu une partie du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Voilà quelqu'un qui n'a pas eu la crainte de Dieu. Vous avez vu le résultat? Et pour Saphira, son épouse qui va venir quelque temps après, là encore, elle va y passer, parce qu'elle a menti elle aussi. Les Corinthiens, eux aussi, en ont subi les conséquences. On lit souvent 1 Corinthiens 11, mais les derniers versets, au verset 28 à 30 de 1 Corinthiens 11, qu'est-ce que dit le Seigneur, enfin l'apôtre Paul? Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Les Corinthiens faisaient n'importe quoi. Ils faisaient des repas, des orgies, à la place du repas du Seigneur. Et ils ont été punis, parce qu'il n'y avait pas la crainte de Dieu. Alors, n'allez pas me faire dire que les épreuves que notre assemblée a dû subir est la conséquence de la même attitude. Non. En ce qui concerne les exemples que nous avons lus, c'est le péché qui a conduit à ces conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous pourrions alors être dans la crainte mêlée de peur. Mais il y a autre chose qui va nous réconforter. On a vu la crainte de Dieu. On a vu que ce Dieu est un Dieu puissant, un Dieu saint. Et comme Moïse était un médiateur imparfait entre Dieu et le peuple, notre Dieu a trouvé en la personne du Seigneur Jésus le médiateur parfait. Et c'est en cela que la crainte de Dieu devient une attitude positive, celle de vouloir lui plaire tellement il nous a aimés et tellement il nous aime. Il y a la crainte, mais Dieu est amour. Notre Dieu qui est saint est un Dieu d'amour. Si Christ a aimé l'Église, c'est chaque membre qu'il aime, dans le but de m'amener à la place qu'il veut, dans l'édifice bien coordonné. Quand le Seigneur parle à son Église, c'est à chaque membre lui-même qu'il parle. Je vous ai parlé dimanche de quelques versets qui m'ont bouleversé. Et je vais vous les lire. C'était dans Proverbe 22, les versets 17 à 21. Proverbe 22, 17 à 21. C'est à toi qui s'adresse, c'est à moi. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, mets ton prénom à la place. N'ai-je pas déjà pour toi, mis par écrit, des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Quel amour il y a derrière ces paroles. Vous vous rendez compte que c'est le Dieu saint qui parle, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de l'univers, pour qui on n'est rien normalement. On est même pas une poussière. Et c'est à toi, et c'est à moi qui dis ces paroles. Quelle attitude, ça a changé ma façon de lire la parole déjà. Parce qu'il m'arrive de la lire un petit peu mécaniquement. Je sais qu'il faut que je lise la parole, alors je lis. Mais quand il dit ça, vous vous rendez compte? Quelqu'un qui vous dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire, toi. Oui, toi. J'ai déjà écrit la parole pour toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Toute la parole, elle est pour toi, elle est pour moi. Et c'est ce Dieu saint, ce Dieu glorieux, mais tellement plein d'amour qui s'occupe de chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui change notre vie quand on a conscience de cela. Et il nous dit aussi, il nous dit dans Ésaïe 43, verset 4, je vous lis encore, c'est à toi qu'il s'adresse, et c'est à moi, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. J'ai donné mon fils pour toi, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Vous rendez compte? Alors, quelle attitude dois-je avoir face à ce Dieu merveilleux? Soit dire oui, obéir par amour, on en a parlé récemment, soit dire non en le négligeant. La marche de l'Église, elle dépend de moi, personnellement. Moi qui suis un membre de l'Église à part entière. Et il a payé, le Seigneur Jésus en a payé le prix fort pour cela. Et on va terminer par quelques versets au psaume 32. Là encore, des versets que nous connaissons tous, mais qui nous réconfortent tellement. Versets 8 à 10 du psaume 32. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sous intelligence. On les bride avec un frein à un mort dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Voilà. Alors, ça nous réconforte et puis ça nous encourage à regarder devant qui on marche, et qu'on doit marcher devant lui, devant sa face. Ça change notre attitude. Moi, je sais que quand j'ai la parole à préparer, je suis beaucoup plus vigilant dans ma vie, tous les jours. Parce que j'ai une responsabilité, mais en fait, notre responsabilité, c'est de marcher tous les jours devant lui. Pas le dimanche, pas le vendredi soir, mais à chaque instant. Et ça change notre attitude de voir devant qui on marche. Marche comme Abraham, devant ma face, et sois intègre. Mais regarde combien je prends soin de toi, combien je t'aime. Alors, on peut lui faire confiance pour le reste de la semaine, non seulement de la semaine, mais pour le reste de notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.